Bonjour à toutes et à tous. Je suis surpris parce que je pensais que ce ne serait pas encore le temps pour moi, là. Mais mon message pourra être un peu plus long. Alors, je suis très content d'être parmi vous ce matin et de voir ce déroulement de culte pour la Pentecôte. Et j'ai vu ce matin l'amour de Jésus au milieu de nous, et en priant les uns pour les autres. Et ce n'est pas juste une personne qui devait prier pour les gens, c'est chacun, les groupes, tout le monde est investi pour se porter les uns les autres. Alors ce matin, j'aimerais lire avec vous quelques versets dans l'évangile de Jean. Dans le chapitre 1er, « Au commencement était celui qui est la parole. » Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. En fait, j'ai pensé à ce texte parce que d'abord je voulais parler de lumière ce matin, mais aussi par rapport à l'actualité, la flamme olympique. Et il y a cette différence entre les ténèbres qui n'aiment pas trop la lumière pour qu'on ne voit pas les œuvres mauvaises, et l'engouement autour de cette flamme olympique qui draine des millions de personnes pour venir voir cette flamme qui passe. Et c'est tout simplement quelqu'un qui court avec une flamme. Et je trouvais ça intéressant quand même, et Alana nous a partagé la vision qu'elle avait reçue il y a une vingtaine d'années, hein, par rapport à un feu qui venait à Marseille et qui se répandait dans la France. Je trouvais ça intéressant que dans chaque ville où elle s'arrête, elle allume un brasier. Alors je ne sais pas si j'ai bien vu, mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était ça. Et donc cette image que le feu de Dieu vienne dans cette nation et chaque ville où le feu arrive parce qu'il y a des enfants de Dieu et un nouveau brasier qui s'allume. Alors je voulais faire un peu plus de parallèle avec cette flamme olympique, mais en fait c'est pas si glorieux que ça comme histoire, la flamme olympique, et donc je me suis dit je vais arrêter là. Nous avons une autre flamme à transporter et nous courons avec une flamme que le Seigneur nous a donnée, la flamme du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous pouvons embraser notre pays. Alors ce matin, je voulais parler de lumière et je vais vous étonner parce que j'ai une image qui n'est pas agricole. Et c'est vrai qu'en fait, à la maison, je me fais charrier parce que « Ah, mais toi, tu travailles agricole, tu manges agricole. Quand tu lis, c'est la France agricole. Quand tu rêves, c'est encore agricole. » Alors, j'ai fait un effort ce matin. J'ai une image qui ne vient pas du monde agricole, ou presque. En fait, j'ai appris que pour éclairer un atelier, enfin dans l'artisanat, c'est tout un métier, c'est quelque chose de spécifique. Il ne s'agit pas juste de mettre quelques lampes au plafond, et c'est bon, parce qu'en fait, par exemple, dans une menuiserie, alors je ne sais pas si Jean-David sera d'accord avec ça, mais dans une menuiserie, vous savez que la lumière, c'est une histoire de fréquence. Et il se peut que l'éclairage ait la même fréquence que la vitesse de rotation d'une scie, de sorte que nos yeux ne voient pas que la scie est en train de tourner. Donc, dans une question de sécurité, il faut absolument que celui qui installe l'éclairage soit conscient de ces choses. Si le menuisier ne voit pas que la scie est en train de tourner, et comme il y a du bruit, les casques et tout ça, bah, ça peut être très dangereux. Et j'ai des amis, et c'est là que je retombe, ça n'a pas duré longtemps. J'ai des amis qui ont un séchoir à maïs, et donc il y a les élévateurs qui transportent le grain de la fosse dans les silos, et c'est un grand ruban, enfin une grande courroie avec des auges qui sont fixées dessus, ces auges se remplissent et montent le grain. Et en fait, il faut régler la quantité de grains qui tombent dans les auges pour pas que ça déborde et en même temps pour pas que ça tourne à vide. Mais comme ça tourne tellement vite, alors il y a une petite trappe pour regarder, ça tourne tellement vite, on voit rien. Et en fait, cet ami, il a installé un stroboscope. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est un stroboscope dans les boîtes de nuit, je sais pas si c'est le bon public ici. Mais alors moi j'étais une fois en boîte de nuit, c'était quand on était en BTS, et la classe a organisé une soirée pour financer un voyage. Alors je n'ai pas pu me défiler, et franchement j'étais tellement inquiet, j'avais hâte d'avoir des nouvelles de ma famille pour savoir si l'église n'avait pas été enlevée pendant ce temps. Sinon, je serais resté dans le lieu de perdition. Et en tout cas, donc cet ami il a installé un stroboscope devant son élévateur, donc ça, c'est une lumière qui clignote rapidement, et ça donne l'impression que l'élévateur il est à l'arrêt. Et alors on peut regarder combien de grains sont dans les auges. Et je trouvais ça assez intéressant comme situation, ce qui veut dire qu'en fait, nos yeux peuvent voir quelque chose qui n'est pas la réalité. Si je me dis, ah, cet élévateur, il est à l'arrêt, que je mets ma main dedans, il n'y a plus de main. Et si je suis un menuisier qui voit la scie à l'arrêt et qui met sa main, il n'y a plus de doigt. Et ça me parle par rapport à notre vie spirituelle. Satan peut venir aussi avec son stroboscope et des choses dangereuses. Il peut nous faire croire, finalement, c'est pas dangereux. Il se passe rien. Et puis, on peut s'installer dans des fonctionnements qui ne sont pas justes et qui sont dangereux pour nous. Et quand on s'en rend compte, c'est trop tard. Satan peut aussi nous dire, mais tu vois, ta vie, il se passe rien dans ta vie avec son éclairage. Dieu, il fait rien dans ta vie. T'es toujours au même endroit. Et en fait, ça peut nous induire dans des choses qui ne sont pas justes ou des croyances qui sont fausses. Par exemple, je me suis rendu compte ces derniers temps, un magnifique stroboscope, ce sont les infos. Attaque au couteau, encore attaque au couteau, rébellion, guerre. Et on se dit, mais Seigneur, il ne se passe rien, tu ne fais rien. Regarde le monde, si tu étais là. Et d'ailleurs, les gens disent, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça. Et c'est là qu'Alana est revenue des États-Unis, elle nous parle qu'à Pâques, il y avait 12 000 baptêmes en France. Et entre-temps, j'ai vu d'autres informations que dans les campus universitaires aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, il y a des jeunes qui demandent à être baptisés. Il y a des jeunes qui se convertissent, il y a des rencontres où beaucoup de jeunes se rassemblent. Mais tout ça, le diable, il nous empêche de le voir si on laisse sa lumière nous éclairer. Et ce matin, j'aimerais nous rendre attentifs à quel est notre éclairage, à quelle lumière sommes-nous exposés. Est-ce que c'est cette lumière qui nous induit en erreur? Alors, bien sûr, c'est tellement réel, les yeux l'ont vu, la scie ne tourne pas, mais en fait elle tourne, l'élévateur il est à l'arrêt, mais en fait non. Satan peut nous induire dans des situations où nous sommes complètement trompés. À l'inverse de ce stroboscope, vous avez aussi le cinéma. Alors en fait, vous savez que le cinéma, ce sont des images qui sont passées à une vitesse assez élevée pour qu'on ait l'impression que ce soit fluide. Donc la norme, c'est 24 images secondes. Si on réduit le nombre d'images, on a parfois des petites séquences saccadées. Mais je trouvais ça intéressant aussi par rapport à cette notion d'éclairage. Satan peut aussi nous faire croire que parce qu'on fait mille choses, notre vie est tellement occupée, on avance. Et en fait, quand on regarde de près, on est toujours sur place. C'est des images à l'arrêt. Et il peut nous emmener dans un activisme où finalement nous avons l'impression d'avancer, mais pour Dieu nous faisons du surplace. Alors il y a une autre histoire d'éclairage qui m'avait posé des questions, c'est Adam et Ève. Alors on commence tout au début et on va aller jusqu'à l'Apocalypse. Mais non, en tout cas, Adam et Ève, j'ai jamais compris, mais pourquoi ils étaient dans ce jardin et d'un coup, parce qu'ils ont mangé du fruit défendu, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Mais comment ils voyaient avant, je sais pas. Et en fait, j'avais entendu cette image de l'ampoule. En fait, Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus parce que la gloire de Dieu est partie à cause du péché. Et c'est comme une ampoule, alors pas les LED et les ampoules modernes, mais les ampoules traditionnelles. Quand elle est allumée, vous voyez que de la lumière, vous voyez rien dedans. Mais quand la lumière s'éteint, quand la gloire s'en va, vous voyez le filament. Et c'est un peu dans ce sens où quand la gloire est partie, enfin, d'un coup ils ont vu et qu'ils étaient nus. Et donc je viens tout de suite à l'Apocalypse, rassurez-vous, on ne va pas faire tout. Dans Apocalypse 3, au verset 17, il est dit à l'église de Laodicée qu'ils croient qu'ils sont riches, mais en fait ils sont misérables, ils sont pauvres. Alors j'ai pas les textes. Tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es aveugle, pauvre et nu. Et donc cette invitation à venir acheter des trésors véritables. C'est vraiment important, enfin ce que j'aimerais partager ce matin, c'est qu'on s'expose à la bonne lumière. Autrement, on pourrait être dans cette situation où on peut penser toute notre vie, ben finalement je suis bien, je suis pauvre, je suis riche, j'ai tout ce qu'il faut. Mais que vraiment on ait cette lumière divine qui vienne sur nos vies et qui révèle comment nous sommes. Jésus dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et c'est ce que nous voulons vivre, d'être dans la lumière. Que nos actes soient dans la lumière, que nos motivations soient dans la lumière du Seigneur, dans la véritable lumière. Et pour que nous puissions vraiment être dans cette lumière, j'aimerais lire encore ce verset de Jean 8, 31-32. Pour être dans la lumière, nous avons besoin de nous appuyer sur la parole de Dieu. Quand Satan vient avec son éclairage, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas lui le contredire ou dire « Non, la vérité c'est ceci et cela ». Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'aime beaucoup ce verset parce que j'ai pu le vivre d'une manière quasiment physique à un moment donné où cette parole est venue dans mon cœur et c'était tellement fort. Et ça ressemblait à ce qu'Elia a raconté quand elle est rentrée de son week-end, de la présence de Dieu dans ma vie, cette vérité qui nous rend libre. Alors c'est vrai que cette vérité nous rend libre, mais c'est attaché à cette persévérance dans la parole. Et nous connaissons ce verset dans le psaume 119 qui dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la véritable lumière, elle existe pour nous et nous voulons vraiment nous attacher à cette parole. Et en plus, nous avons le Saint-Esprit qui vient par son feu, qui vient purifier et qui vient éclairer notre vue. Alors nous pouvons aussi être trompés par l'ennemi par rapport à qui nous sommes. Parce que Dieu nous a déclaré que nous sommes ses enfants, si nous avons donné notre vie au Seigneur. Et j'ai beaucoup aimé le cantique que nous avons chanté la semaine dernière. Nous sommes héritiers du grand roi. C'est des déclarations que Dieu fait sur notre vie. Et pourtant, souvent, nous laissons l'ennemi venir nous dire, « Oui, mais toi, tu es un chrétien de seconde zone. Toi, regarde les autres, comment le Seigneur leur parle. Mais toi... » Et nous pouvons nous laisser décourager par l'ennemi. Mais si le Fils nous a franchis, alors nous sommes réellement libres. Alors, j'aimerais prendre un exemple qui est agricole cette fois, pour illustrer encore cet éclairage sur nos vies, sur comment Dieu nous voit et comment nous voyons, comment nous voyons les uns les autres. L'année dernière, j'ai planté une rangée d'arbres, 25 arbres fruitiers, et j'étais très content de les planter. Et donc, je passe souvent à côté, je marche à côté des arbres, et je les admire, je regarde, est-ce qu'il y a une feuille qui a poussé, une deuxième, et donc je suis très impatient de voir des fruits. Donc l'année dernière, il n'y avait pas de fruits, bien sûr, mais cette année, il commence à y en avoir. Et l'autre jour, je me promenais dans mes arbres et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une similitude entre le regard de Dieu sur moi et mon regard sur mes arbres. Et donc moi, je marche à côté de mes arbres, je les connais presque tous par cœur. Et en fait, quand je regarde un arbre, j'ai de la bienveillance. Je ne suis pas en train de juger l'arbre. J'ai de la bienveillance, alors je vois, tiens, là, il y a une branche, elle n'est pas comme j'aimerais. Donc je sais que l'année prochaine, enfin l'hiver prochain, je vais couper telle ou telle branche. Mais ce que moi je demande à mes arbres, c'est qu'il y ait la vie en eux. Et donc, il y a la vie en eux, et ils poussent, mais il y a des branches qui poussent de trop ou pas là où il faut. Et j'aimerais donner une forme. Mais tout ça, c'est dans la bienveillance, c'est pas dans le jugement. Ah, encore une branche, qu'est-ce qu'il fait cet arbre, ça va m'énerver. Et c'est un peu comme ça que nous voyons. Enfin, je sais pas si c'est comme ça pour vous. En tout cas, parfois, c'est un peu mon regard sur moi-même. C'est, ah, mais t'es encore nul. Mais en fait, c'est cette vie qui doit être en nous. Et Dieu s'occupe de nous conduire. Et il sait quand il y a des choses qui vont changer dans notre vie, qui pourra couper une branche, parfois il y a des choses qui vont faire mal, mais simplement ce regard et que nous pouvons aussi avoir sur nos frères et sœurs. Parfois nous voyons juste cette branche qui pousse de travers chez quelqu'un et ça nous bloque, on voit plus que cette branche, on oublie toute la richesse de la personne, qui elle est, ce qu'elle a apporté, parce qu'il y a cette branche. Alors que nous puissions aussi avoir ce regard de Dieu, de bienveillance sur les uns et les autres, et nous avons besoin encore d'être transformés, d'avoir plus de miséricorde, plus de compassion, plus de bienveillance les uns envers les autres. Donc, il y a des choses qui vont être coupées dans ces arbres, mais je sais qu'ils vont porter du fruit. Alors, tous les arbres ne sont pas les mêmes, hein, il y a des espèces différentes, et même dans les pommiers, par exemple, j'ai un pommier de... Enfin, les Christkindl, c'est les pommes de Noël. Ce pommier, il était tout nu encore quand les autres avaient déjà fleuri, avaient des feuilles, et je me suis dit, ça y est, il est mort, celui-là. Mais en fait, non, c'est simplement que sa saison, elle est un peu plus tard. Donc, il s'est mis à avoir des bourgeons, il a fleuri, il a fait des feuilles, et tout va bien. Mais c'est juste qu'on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous dans la même saison. Mais nous avons besoin les uns des autres pour nous accompagner. Alors, je ne vais pas faire beaucoup plus long. Comme ça, on peut encore un peu partager les uns avec les autres. Jésus dit dans Matthieu 5, au verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Si nous avons cette véritable lumière en nous, je crois que nous pouvons aussi aider ceux qui sont autour de nous à voir clair dans leur vie, à avoir aussi un regard plus juste sur leur situation. Et pour terminer, j'aimerais prier cette prière que Paul adresse aux Éphésiens et que j'aime bien faire mienne, parce qu'elle parle de ce Saint-Esprit qui vient illuminer notre intelligence. Et cette prière, c'est « Je te prie, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous donner par ton esprit sagesse et révélation, afin que nous te connaissions. Illumine ainsi notre intelligence, afin que nous comprenions quelle est l'espérance qui est attachée à ton appel, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que tu nous fais partager avec ceux qui t'appartiennent, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance que tu mets en œuvre en notre faveur. Amen.